France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique.
Aujourd'hui, François Bernard Mache. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans le portrait contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir François Bernard Mache, philologue, philosophe et surtout compositeur, à la veille d'une série d'événements qui lui rendent hommage à Marseille avec l'ensemble Musica 13, à Nice, à Paris avec le GRM ou encore à Cergy-Pontoise où nous enregistrons prochainement son opéra Karakorum. Revenant au mythe fondateur de la Grèce antique, l'œuvre de François Bernard Mache réévalue les rapports entre nature et culture en traquant les universaux parmi les modèles sonores et en s'appuyant sur les structures du langage. Renvoyant volontiers les formalismes au magasin des accessoires, le compositeur plaide pour le questionnement du pourquoi de la musique, imaginant une nouvelle vie aux découvertes insuffisamment explorées de Debussy ou de Varèse. Entre la recherche de l'innovation pour l'innovation et celle de l'émotion pour l'émotion, écrit François Bernard Mache, il y a peut-être une troisième voie. Un extrait de « La peau du silence » de François Bernard Mache par l'Orchestre National de France sous la direction d'Ivo Malek, un enregistrement réalisé en 1974, mais c'est une pièce un petit peu plus ancienne. Bonsoir François Bernard Mache.
Bonsoir.
On entendait ici le ressac du Pacifique, les cris des mouettes, la clochette d'une bouée sonore, mais transfigurée par votre écriture à travers une enclume, à travers les flûtes et les hautbois, à travers des polyrythmies qui simulent les vagues. Est-ce que ce sont déjà des clés pour votre écriture ?
Oui, un peu, parce que à cette époque, l'ostinato n'existait plus, il était banni. Et lorsque j'ai montré la partition à Boulez, il a sursauté en disant « Oh, il y a une ostinato !» Et ce qui m'intéressait dans les vagues, c'est qu'il n'y en a pas deux pareils. C'est ce genre d'ostinato qui m'intéresse. Ce n'est pas celui de la boîte à rythme, c'est l'ostinato vivant.
Quand on parle des vagues, quand on parle de la mer, on pense à Debussy. Est-ce que c'est votre première source d'inspiration quand vous étiez jeune compositeur ?
Oui, absolument. L'écoute de sirènes en particulier, et naturellement de la mer, m'a toujours fasciné. La mer est assez vaste pour plusieurs compositeurs.
Compositeur de l'instant, Claude Debussy, est-ce que François-Bernard Mach est un compositeur de l'instant ?
Pas tellement, pas consciemment, non. Non, je suis plutôt au contraire celui des perspectives larges. Ce qui m'intéresse dans la mer, c'est l'horizon, souvent.
La mer source d'inspiration aussi d'une pièce Andromède, un petit peu plus récente, elle date de la fin des années 1970, où vous utilisez aussi le chœur. Alors on est plus proche de Ravel ou c'est une coïncidence ?
Oui, il y a quelque chose d'apparenté au lever du jour de Daphnis, par exemple.
Un extrait de Andromède de François-Bernard Mach par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Gilbert Ami. C'était en 1979. François-Bernard Mach, on vient d'entendre deux exemples d'orchestre symphonique, philharmonique, qui interprétaient votre œuvre. Vous avez aussi beaucoup écrit pour des ensembles plus réduits, mais en utilisant des sons enregistrés. Alors là, ça change complètement la perspective du travail du compositeur.
Effectivement, j'ai été un des premiers en 1960 à mélanger les instruments et les sons enregistrés et je persiste à le faire de temps en temps. Je ne pense pas que ce soit du tout impossible, même si ça pose de grands problèmes d'équilibre et de fusion.
Quels sont ces sons enregistrés ? Ce sont des choses que vous allez chercher vous-même dans la nature ou est-ce que ce sont des choses que vous prenez sur des enregistrements faits par des ethnologues ou par...
Quelquefois, je prends des enregistrements d'oiseaux parce qu'il faut être très compétent et très patient pour aller trouver les oiseaux. Mais j'ai aussi, je fais des enregistrements moi-même, même d'oiseaux. Pour la mer, je suis entré dans une grotte en me glissant sur un petit kayak avec mon magnétophone, dans une grotte tout près de la maison où j'habite à Morgos. Et là, j'ai entendu un festival de rythme. Et chaque fois que je retourne dans cette grotte, j'entends ma musique en direct.
C'est-à-dire qu'en d'une certaine manière, la musique est déjà là, le compositeur la met en forme.
Il choisit. C'est
cela, parce que tout de même, le rôle du compositeur est plus important.
Oui, il choisit, et dans mon cas, en général, il double. C'est-à-dire que pour que rythmiquement, ça soit complètement ensemble, je transcris tout. Même des sons comme les glouglous de la mer, ce qui pose toutes sortes de problèmes techniques, mais c'est pas l'essentiel.
L'essentiel, c'est quoi finalement? C'est d'entrer en résonance avec cette nature,
c'est
d'y déceler les univers.
Oui, c'est ça. Quand j'entends un festival de percussions dans une grotte marine, je trouve que ça serait dommage d'être tout seul à l'entendre et je le mets en scène, en quelque sorte, dans une œuvre où je choisis les meilleurs moments. Alors là, il y a un peu de tricherie, si vous voulez, mais dès qu'il y a un micro, c'est déjà une manipulation.
Thank you.
extrait de Amor Ghost de François-Bernard Mache, l'ensemble de The Deuxième sous la direction de Boris de Vinogradov. C'était en 1979. François-Bernard Mache, est-ce qu'il n'y a pas un risque de vous faire taxer de musique descriptive, de musique à programme, ou est-ce que vous assumez cela?
C'est pas la même chose. Il peut y avoir un programme, c'est-à-dire un scénario, c'est-à-dire que il y a une destinée propre à l'œuvre, et ça, c'est un travail d'architecture musicale. Mais descriptive, ça me gêne un petit peu, parce que en général, les sons que j'enregistre, je les utilise de telle manière qu'ils aient l'air d'être des musiciens présents, et non pas, je ne crée pas un paysage sonore. Au contraire, je transforme le paysage en partenaire des instrumentistes.
Vous transformez le paysage ?
J'essaye.
Mais vous êtes tout de même très proche des éléments, de la musique élémentaire. Vous parlez de l'eau, de l'air, on va entendre le feu.
Oui.
Les éléments sont quelque chose qui est très prégnant dans votre œuvre.
Effectivement, c'est un non-sens scientifique, mais une chose significative pour l'imaginaire. Donc, quand je relis Bachelard, je me retrouve. Si on regarde les choses de très haut, je suis né, j'ai commencé ma carrière à une époque où l'histoire était toute puissance. Et donc on se situait dans l'histoire avec un tribunal de l'histoire qu'on attendait.
Fameuse trajectoire dont parle Boulez.
Voilà, donc on se situait après quelqu'un et devant un avenir fertile, comme disait Boulez. Bon, très bien, bien sûr, l'homme est historique, mais on a complètement oublié, on a voulu oublier qu'il est aussi un sujet naturel et que ce qui est dans ce domaine, pas quelquefois un handicap ou une servitude, peut être transformé en source de plaisir. Donc, la troisième voie, si tant est
qu'elle existe,
consiste à rendre la présence de l'homme dans la nature harmonieuse, et non pas à vouloir créer de toutes pièces une autre humanité. Donc je ne suis pas du tout un transhumaniste, je reste une sorte d'humaniste, mais qui admet comme une source de joie les servitudes naturelles.
Notamment les fameux rythmes du feu dans Marais. Finale de Marais, une pièce pour 6 percussions amplifiées et sons enregistrés. C'était les percussions de Strasbourg. C'était la grande époque du festival de Royan en 1975. Une pièce, bien sûr, de François-Bernard Mache. Alors là, on vient d'entendre les rythmes du feu de manière relativement abstraite, mais vous avez utilisé aussi ce modèle du Fugue dans une œuvre qui a marqué à l'époque Cassandra pour ensemble et sons enregistrés une fois encore. Et si l'on parlait tout à l'heure de musique à programme, là c'est vous-même qui parlez de cinéma, un cinéma pour l'oreille, mais un cinéma fondé sur l'association libre, précisez-vous.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il paraît que les psychologues ou les psychiatres font faire ça, font enchaîner des rêveries éveillées pour essayer de détecter les interprétations. Alors, moi, je n'ai pas besoin de psychiatre pour me livrer à ça. J'écoute les sons très attentivement, j'entre dedans en quelque sorte et je trouve des parenthèses métaphoriques sans me soucier de la logique rationnelle.
Mais là, on est quand même dans la proximité avec la langue, le grec.
Il y a de tout, justement, dans Cassandra. Il y a le passage que l'on va entendre, je crois, fait chuchoter en grec les rythmes du feu. Et ensuite, il y a des instruments du Moyen-Âge, et ces instruments donnent naissance à des sons d'abeilles. Donc, il n'y a aucune logique. Mais il y a tout de même une organisation, c'est pas n'importe quoi avec n'importe quoi.
Mais la métrique grecque a intéressé quelques compositeurs avant vous, je pense à Maurice Emmanuel, pour ne pas citer Olivier Messiaen, évidemment,
oui, bien
qui est peut-être le plus connu à avoir travaillé sur ces métriques.
Oui, oui, on en a discuté avec Messiaen.
Est-ce qu'elle a quelque chose de particulièrement fort pour le compositeur que vous êtes, cette métrique, ou c'est parce que vous êtes un helléniste vous-même?
Oui, surtout quand elle est complexe comme celle de Pindare. C'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur la répétition, elle ne repose pas sur la carrure. C'est comme des suites. Alors Messiaen avait bien vu ça, il appelait ça des personnages rythmiques. Mmh. Les pieds grecs sont des sortes de personnages rythmiques, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui fait l'intérêt aussi des rythmes balkaniques, l'aksak, où il y a constamment des divisions en 3 et en 2, de toute façon. Alors, dans l'aksak, c'est toujours attendu, parce que ça revient périodiquement, mais dans Pindare et dans l'usage que j'en fais, non, c'est imprévisible.
Court extrait de Cassandra de François Bernard Mach, une pièce de 1977. On entendait votre voix, François Bernard Mach. C'est vous qui disiez.
Oui, c'est moi
le
qui chuchotais du grec.
Et qu'est-ce que vous disiez?
Je disais ce que Platon a dit dans Le Banquet, où il donne la parole à Diotime.
Alors, aujourd'hui, on a beaucoup d'occurrences de ce qu'on appelle la speech melody en anglais. Je pense notamment à Steve Reich, qui en a fait toute une théorisation, qui lui-même cite d'ailleurs Janáček. Et vous citez aussi Janáček, notamment son travail sur les inflexions du langage. Mais vous dites, pour que le langage soit utilisé comme un modèle musical, il faut que la grammaire ne l'emporte pas sur la parole. Alors précisément, très tôt, dès 1959, dans Sapphos Mêlée, vous aviez utilisé un texte de Sappho. D'après ce texte, vous avez réalisé à la fois la mélodie et son propre accompagnement. Et vous dites que la métrique fournit le schéma mélodico-rythmique sur un système à deux hauteurs, à deux durées. Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais vous en donnez un exemple très précis. Alors, précisément, est-ce que la langue de Sappho se prête à cette mise en musique plus que d'autres? Mais est-ce que le compositeur a besoin de cette sorte de modèle linguistique? Ou est-ce que c'est votre choix qui vous permet de travailler sur ce modèle?
Non, c'est pas du tout un besoin, c'est un intérêt pour la linguistique et pour les langues à tons en particulier, comme le grec ancien qui était une langue à trois tons. Ça avait beaucoup frappé Messiaen d'ailleurs, il avait beaucoup aimé cette pièce, et il m'a fait une belle dédicace où il la mentionne. Et je me demande si ça n'a pas, en quelque sorte, favorisé aussi la naissance du langage communicable qu'il a, quelques années plus tard, élaboré.
Est-ce que finalement c'est une manière de traiter ce rapport toujours complexe entre les contraintes et le hasard ?
Oui, en effet, c'est des hasards acceptés. Et ça remonte à mon enfance où c'était pendant la guerre, on ne sortait pas, il n'y avait pas de cinéma. On écoutait la radio et moi j'écoutais les ondes courtes. Et sur les ondes courtes, il y avait des langues incompréhensibles. Mais je pouvais rester longtemps à les écouter simplement comme une musique articulée. Et voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'écoute les langues en essayant de ne pas m'occuper de ce qu'elles veulent dire. Elles disent quelque chose de toute façon au-delà des mots.
Alors on va revenir précédemment à Safous Mele. Un petit exemple de cet enregistrement qui date de la Biennale de Paris en 1963. La pièce date de 1959, c'est Jeannine Collard et c'est Marius Constant qui dirige. Un petit extrait de Safous Mele de François Bernard Mache. Alors si l'on continue, François Bernard Mache a parlé vocalité. Tout à l'heure, on parlait des consonnes avec le grec, de la consonne percussive dans la langue grecque. Dans la langue française, il y a une certaine richesse du système des voyelles, plus que dans le grec. Alors vous avez utilisé des moyens modernes. À l'époque, c'était le sonographe pour analyser phonétiquement un poème de Paul-Éluard. Est-ce que vous aviez besoin d'analyser de manière aussi fine ce poème ? Est-ce que finalement l'inspiration poétique ne suffit pas au compositeur ?
Non, elle ne suffit pas. Pas plus qu'une paire de lunettes ne suffit pour voir tout ce qu'il y a à voir. Et le microscope a dévoilé des mondes visuels incroyables. Eh bien, nous avons ça aussi avec le sonographe que j'ai été le premier à utiliser, je crois que c'était en 63, chose comme ça, parce que ça permet d'entrer dans le détail des syllabes, des évolutions, et on découvre quelque chose que l'écoute contredit. Par exemple, le fait que les consonnes, c'est ce qu'il y a de moins sonore dans le langage. Et ce qu'il y a de plus court aussi, alors que les voyelles sont longues et riches et évolutives aussi. D'une syllabe à l'autre, le A change de spectre. Et tout ça, je l'ai découvert avec un sonographe. Et donc, ça m'a intéressé. Et d'une certaine manière, ça a donné naissance à la musique spectrale une dizaine d'années plus tard.
Et aux recherches actuelles de l'IRCAM qui travaille beaucoup sur la voix aujourd'hui, dans les années 2010.
Oui, aussi, oui.
On écoute un extrait de « Le son d'une voix ». C'est le domaine musical dirigé par Michael Gillen.
Thank you.
Le son d'une voix, un extrait de cette pièce de François Bernard Mach par le domaine musical sous la direction de Michael Gillen. C'était en 1967. Plus près de nous, François Bernard Mach, vous avez mis en musique des chants d'amour sumériens. Pour la beauté du chant d'amour?
Pas exactement. C'est que ma curiosité, mon goût de l'exploration m'a conduit souvent vers l'Asie. Et donc vers des influences de folklore ou de traditions savantes asiatiques. Et j'ai un petit peu satisfait mes deux curiosités pour les langues d'une part et pour d'autres cultures musicales d'autre part dans le recueil Kengir, parce que j'y fais chanter la langue qui a été la première à être jamais écrite, le sumérien. C'est à la fois de l'archéologie imaginaire et du folklore imaginaire. Et dans certains passages de ce recueil de cinq chants, dans Koubatoum, il y a un mode, une gamme, si vous voulez, empruntée à l'Indonésie, qui est le slendro, mais rendu plus systématique. C'est une division de l'octave en cinq intervalles égaux. Et puis, il y a une langue qui a disparu et qui n'est apparentée à aucune autre et qu'on reconstitue tant bien que mal. Il y a très peu de gens qui la comprennent. Moi, je voulais aussi tenir compte du sens. Ce sont des poèmes d'amour particulièrement beaux. Et je les fais chanter en sumérien pour qu'on n'essaye pas de comprendre, puisque personne ne comprend le sumérien. Mais on sent les choses. Thank you.
Kubatum, le quatrième des cinq chants d'amour sumériens publiés sous le titre Kenjir, c'était la voix de Françoise Kubler. C'est bien sûr une pièce de François-Bernard Mache.
Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France Musique.
François-Bernard Mache, on a parlé des éléments, du feu, de la mer. On a évoqué la question du langage, mais dans la nature, il y a aussi des animaux. Vous avez évoqué les oiseaux tout à l'heure.
Oui, oui, il y a beaucoup d'animaux. J'ai commencé par d'autres animaux que les oiseaux parce que j'avais l'impression que Messiaen avait tout dit et que c'était un domaine privé. Je ne voulais surtout pas m'en emparer. Et puis surtout, les oiseaux, ça me paraissait trop facile. Ils n'ont pas besoin d'être réhabilités. On sait depuis toujours que ce sont des musiciens. Moi, je travaillais avec les grenouilles, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est intéressant aussi, rythmiquement, entre autres.
Alors, vous avez écrit, par exemple, une pièce qui s'appelle Corroir, en 1972. C'était pour Elisabeth Roynatska, qui nous a quittés récemment. Et précisément, c'était pour un clavecin moderne, avec 16 pieds, et puis des sons enregistrés. Alors, les sons enregistrés, c'était des sons de quels animaux, précisément, François-Bernard Mache?
Alors, il y en a de tout ça. Il y en a que j'ai enregistrés parce que je vivais avec un chama.
Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un chama?
C'est une sorte de merle somptueux avec une poitrine orange vif et des dons musicaux hors pair. J'ai enregistré plusieurs dizaines d'heures de ce chama et j'en ai extrait quelques très bons moments. Mais c'était la première fois que je me lançais dans le chant d'oiseaux. Et d'ailleurs, dans la même pièce, il y a aussi un quintet de grenouilles. Il y a ça c'est presque difficile à avouer, il y a un Vera en rut, ce sympathique animal.
On peut tout dire à 23h sur France Musique, vous savez.
Les enfants sont couchés, voilà. C'est pas grave. Les Vera en rut sont des rythmiciens très intéressants, ils grognent de façon...
Du fait du rut, rassurez-moi.
Oui. Et puis il y avait un guanaco, mais qui était très mécontent de l'enregistrement, il m'a craché la figure. Et puis des baleines, j'ai été le premier baleinier musical, je crois, en 1972. J'avais obtenu ces enregistrements par le centre de recherche de Jouy-en-Josas, recherche zootechnique, qui lui-même avait reçu des enregistrements du professeur Poulter en Californie.
Et puis vous avez aussi utilisé cette langue très particulière qui utilise des clics. Alors, clics, ce sont des bruits de bouche, en quelque sorte.
Ben, je ne sais pas si c'est la troisième voie de la linguistique. En quelque sorte, oui, puisque ce ne sont ni des voyelles ni des consonnes, mais des bruits de bouche. Mm-hmm. Et ces bruits de bouche, il y a très peu de langues dans le monde qui les utilisent. Il y en a un peu au Mexique, mais il y en a surtout en Afrique du Sud, où une des langues qui maintenant est devenue une des langues officielles, le Xhosa.
Ça s'écrit X-H-O-S-A,
oui. Il y a 21 défaut, clics, ouais, différents.
Comment vous le faites
En claquant en claquant du bec.
Redis-moi le nom de la langue.
Xhosa.
D'accord.
Je ne savais pas les faire, me suis un peu entraîné. Et alors, à l'époque, j'ai fait venir une jeune linguiste sud-africaine. Elle était Xhosa elle-même. Elle habitait Londres et je lui ai payé le voyage pour qu'on enregistre ensemble des textes de sa langue. C'était encore l'apartheid, donc elle m'a lu des textes de revendication, de libération du peuple Xhosa. Et moi, j'ai choisi non pas des textes signifiants, parce que ce qui était signifiant, c'est le fait même d'avoir pris la langue, mais pas de donner le détail. Donc, c'est absolument incohérent ce qu'elle dit, parce que j'ai choisi les textes en fonction de leur richesse en clics.
Alors là, on va surtout écouter en fait l'enregistrement du chama que vous avez utilisé dans Corvar, François-Bernard Mache. Thank you. Le schéma de Korvar de François-Bernard Mach avec au clavecin Elisabeth Roynatska. François-Bernard Mach, le 10 décembre prochain à 16h ici même au studio 104 de la Maison de la Radio, on pourra entendre votre pièce Alcyone pour piano et son fixé. Et là, vous êtes parti aussi d'un modèle animal.
Les meilleurs chanteurs d'Afrique dans le domaine animal, c'est certainement les kossifs. Il y a plusieurs espèces qui toutes sont très intéressantes musicalement. Donc j'ai choisi de très beaux moments de ces kossifs. Et puis j'ai eu l'idée de les faire dialoguer avec un piano, un peu comme les duos très répandus aussi chez les oiseaux africains, où tantôt il s'agit d'être absolument synchrone entre les deux oiseaux qui duettent, qui font une reconnaissance vocale par le duo. Tantôt il s'agit de... au contraire, d'une sorte de différence, de différenciation.
Ce qu'on trouve, par exemple, dans le hockey, dans la musique médiévale.
Oui.
Ou dans le gamelan aussi, qui se, en Indonésie, qui se complète.
Des broderies complémentaires, des choses comme ça. Donc, j'ai donné un piano presque mélodique, mais sa mélodie n'est pas toujours exactement la même que celle de l'oiseau qu'on entend.
Alors, quel est le sens de ce duo? Vous parliez de reconnaissance, ils se reconnaissent entre eux. Est-ce que sur le plan musical, c'est le même sens que vous lui donnez? Est-ce qu'il y a une zone de conflit? Est-ce qu'il y a une zone de précisément de reconnaissance et d'attraction?
Alors, il y a l'interprétation des biologistes pour qui il faut bien que ça serve à quelque chose. Donc, ça sert à se reconnaître dans la forêt sombre, comme ça, on n'a pas besoin de se voir, on sait que l'autre est là. Oui, seulement il y a aussi des duos dans des zones complètement découvertes où les duettistes se voient très bien. Donc c'est pas une interprétation suffisante. Non, je crois que la grande présence de la musique chez les animaux et en particulier chez les oiseaux, c'est à relier au goût du jeu. Le jeu est une donnée biologique fondamentale et que ce soit pour l'homme ou pour l'animal, la musique est aussi un jeu.
Alcyone de François-Bernard Mach avec la pianiste Mackie Belkin et puis des kossifs enregistrés. C'était une pièce relativement récente, enregistrée en 2016, François-Bernard Mach. Alors on a parlé des oiseaux, on a parlé du langage, on a parlé des éléments, la mer, le feu.
Et ce qui nous ramène au feu, ce sont aussi les archétypes qu'on trouve dans Braise, par exemple. Alors, vous parliez au début de cette émission du refus de l'ostinato, du refus de la répétition qui a gouverné une bonne partie de l'avant-garde musicale dans la première, surtout dans la deuxième partie du XXe siècle. Finalement, l'ostinato, c'est vieux comme le monde.
Absolument, et c'est universel. Il n'y a pas tellement de données universelles, mais ça m'a intéressé de les rechercher. Donc, en tant que musicologue, je m'y intéresse, même si je n'en fais pas un usage systématique.
L'ostinato, c'est forcément lié au corps, à la danse, au mouvement ?
C'est lié à tout ça, bien sûr. Mais là, il faudrait une émission spéciale pour en parler, parce que c'est un sujet vaste et très intéressant.
L'ostinato, quand on l'utilise, par exemple, pour l'orchestre, l'orchestre avec soliste, ici il s'agit d'un concerto, ça permet de jouer aussi avec la perception de l'auditeur. C'est ça qui intéresse le compositeur, ou c'est vraiment le côté formel qui est intéressant dans l'ostinato ?
Non, ce qui m'intéresse, c'est aussi que les gens aient envie de danser à l'occasion. J'ai vu ça quelquefois dans les années 70, les gens se libéraient et j'ai vu des auditeurs qui dansaient sur ma musique et j'ai trouvé ça extrêmement sympathique.
C'est une commande de la radio polonaise il y a une vingtaine d'années. On retrouve d'ailleurs la même claveciniste, Elisabeth Radnaska. Le principe de Braise, c'est précisément de travailler sur cet ostinato, entre autres.
Et oui, le crépitement des braises. Alors là, on s'est retrouvé avec Xenakis, qui lui aussi aimait tellement le crépitement des braises qu'il a détruit plusieurs micros pour les enregistrer et ça a donné Concret PH.
Thank you.
un extrait de Braise de François-Bernard Mach, concerto pour clavecin et orchestre. C'était Elisabeth Rosnaska et l'orchestre de Katowice sous la direction d'Anthony Witt en 1995, ici même à Radio France. François-Bernard Mach, demain vous serez à Marseille, à la salle Musique à 13, à 19h pour une rencontre-conférence. Mardi prochain, toujours dans la salle Musique à 13, à l'hôtel de Grignan à Marseille, l'ensemble Musique à 13 sous la direction de Roland Herabedian donnera un programme de vos œuvres. Je signale d'ailleurs qu'un disque paraîtra dans quelques temps de Musique à 13 qui vous sera consacré. Et puis donc le 10 décembre à la maison de Radio France au studio 104, ce sera dans le cadre d'un hommage sur 3 jours à Pierre Henry. Et le même jour, le 10 décembre à 15h30, vous êtes aussi présent dans le cadre du festival des Mancas à Nice pour une autre pièce, et on ira donc enregistrer le 21 décembre votre opéra Karakorum. Ce sera au théâtre 95 à Cergy. Pour terminer cette émission, puisqu'on parlait d'archétypes, on parlait d'ostinato, il y a aussi quelque chose qui existe depuis toujours, on peut l'imaginer en tout cas dans l'histoire de la musique, c'est l'imitation, donc le canon. Quelqu'un prend quelque chose et quelqu'un le reprend ou l'imite.
En effet, j'ai eu l'idée, c'était une commande de la radio polonaise à l'occasion du décès de Witold Lutosławski, et j'ai eu l'idée de faire un canon complexe, un canon de tempi, c'est-à-dire que ça change de rythme, pas de rythme, mais de proportion à chaque fois, et de partir d'un universel qui est le gémissement.
Le gémissement, c'est-à-dire
C'est-à-dire une descente chromatique, par exemple.
Le titre plaine, c'est cela, c'est la plainte.
Plaine, c'est un mot d'occitan qui désignait le planctus, la plainte. C'est le mot qui a donné plainte en français pour la disparition d'un grand homme.
On se quitte donc avec plaine de François-Bernard Mach, l'orchestre philharmonique de Radio France est dirigé par Pascal Roffet.
Thank you.
C'est avec Plan de François Bernard Mach par l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Pascal Roffet. C'était en 1999 dans cette maison. Ainsi se referme ce portrait. Je rappelle les événements à venir. Donc demain, jeudi, à la salle Musique à 13 de Marseille. Un concert au même endroit mardi prochain, toujours avec Musique à 13 dirigé par Roland Erabédian. Et puis en décembre, le 10 à Nice et à Paris au Studio 104. Le 21 décembre au Théâtre 95 de Cergy. Merci beaucoup François Bernard Mach d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci à Flora Sternadel qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Olivier Dupré. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait. Ce sera avec le chef d'orchestre Daniel Kafka. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale. Bonsoir Anne.
À réécouter sur francemusique.fr.